Jean-Jacques Lapoue.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre. Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de la Bah si j'y suis, Daniel Mermet.
Je voulais remercier François Ruffin pour l'émission d'hier. Que dire sinon que c'était bouleversant, et encore c'est un euphémisme. Moi je pense que là, à ce niveau-là, parler d'inégalité sociale, d'injuste répartition des richesses, ça aussi ce sont des euphémismes. On peut carrément parler, comme disait ce cher monsieur Ziegler, de prédation et de prédateur. Voilà, merci hein, de nous faire entendre ce témoignage si vivant, si choquant. Au revoir, à bientôt.
Et toi, Daniel, tu sais à quoi tu sers? Tu sers à semer la merde. Tu es un semeur de merde. Et j'espère que Bernard Arnault va porter plainte contre toi. Et puis tu iras, je sais pas où, avec ton copain Mélenchon, avec tes moins de 10%, connard.
Bonjour, je voulais vous remercier pour toutes vos émissions et surtout pour les deux dernières qui viennent d'être diffusées sur les ouvrières de Le Jaby. Quelle clairvoyance et quel réalisme de la part de ce couple de personnes qui vivent avec 400 euros par mois, et on nous parle tous les jours de milliards dans les médias. Je ne sais pas dans quel monde on vit et je ne sais pas qui a raison, mais j'ai trouvé que ces personnes, malgré leur peut-être leur accent, etc., ont l'air un petit peu, comme ils disent, prolétaires, mais moi je les ai trouvés très très clairvoyants et très courageux. Merci pour toutes vos émissions. C'était Marie-Agnès.
Bonjour. Alors moi, j'ai un petit message pour la dame qui répondait à Ruffin, là, la porte-parole, ou je ne sais pas ce qu'elle était, chez LVMH. Voilà. Madame, rien ne vous oblige à être aussi désagréable. Ces appels n'étaient pas des attaques personnelles. On fait le métier qu'on peut. Mais votre mépris et votre voix glaciale en disent long. Et sinon, bah merci là-bas, si j'y suis, pour ces émissions, parce que c'est ça le journalisme, poser des questions gênantes, embarrassantes. On devrait vous inviter comme polémiste politique dans des émissions grand public, parce que vous en feriez du grabuge. C'était Rose de Grenoble.
C'est nous les canus, nous sommes tout nus. Bienvenue au 19e siècle. Bernard Arnault, un modèle pour tous. Bon époux, bon père. Avec les Le Jaby, il a ses œuvres, et le fils Clure est prêt à travailler gratis. Eh bien, vive le progrès. C'est pas une élection présidentielle qu'il nous faut, c'est au moins un nouveau front populaire. Mais monsieur Arnault, ce qui console un peu, c'est que même signé Kenzo, même à 850 euros, un linceul, ça n'a pas de poche. C'était Christine du Limousin.
Bonjour, c'est Solange d'Aveyron. Il ne faut pas non plus oublier que le premier qui a su reconnaître dans Bernard Arnault qu'il s'agissait d'un saint, c'est Laurent Fabius. C'est lui qui l'a persuadé de revenir des États-Unis en 84 en lui offrant tout l'Empire Boussac et en lui permettant à la fois de le restructurer et certainement de le siphonner. Donc il y a... Voilà, enfin, merci à Bernard Arnault, puis merci aussi à Laurent Fabius, quoi. Au revoir.
J'ai entendu ce week-end le candidat président demander avec insistance « Aidez-moi, aidez-moi ». Alors, je demande solennellement à tous les Français, de droite comme de gauche, de répondre à son désir. Aidez-le à partir. La France n'en peut plus de ces entourloupes intellectuelles et politiques qui n'ont d'égal que sa vulgarité. Vivant à l'étranger, je serai enfin fier à nouveau d'être français. Merci, monsieur Mermet, pour vos émissions.
Bonjour à toutes et à tous. Petite question philosophique. Comment peut-on expliquer que plus on glisse vers la dégueulasserie, vers la niaiserie, vers l'inculture, vers le libéralisme à tout craint, etc., il y a une expression qui fasse floresse actuellement, l'expression en question, c'est « il n'y a pas de souci ». Partout où je vais, moi, on me dit, il n'y a pas de souci. Je vais acheter ma baguette, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas la monnaie, il n'y a pas de souci. Je suis à poil, il n'y a pas de souci. Et le jour, j'ai même poussé le bouchon, la même enfin, j'ai poussé le bouchon, non, une vendeuse qui se faisait une carte bleue. Donc je lui ai demandé en même temps si les chaussures que j'achète à toute ma data, est-ce que je pouvais les reporter. Et rapporter m'a dit, bah, de toute façon, s'il y a un souci, il n'y a pas de souci. Même s'il y a un souci, il n'y a pas de souci, m'a dit-elle. Et un souci, il n'y a pas de souci. On en est rendu là en France en 2012.
Eh oui, bah, il n'y a pas de souci. Merci pour ces messages, chers AMG. Auditeurs, auditrices modestes et géniaux et géniales, là vous le prouvez bien. Effectivement, s'il y a des soucis, il n'y a pas de soucis. Alors on continue. On continue avec Saint Bernard, notre sauveur si modeste. Troisième et dernier volet aujourd'hui. Et on va exaucer le vœu d'un auditeur. Ah, il s'appelle Gonzague. Et qui nous dit, merci pour cette si révoltante et émouvante émission. S'il vous plaît, faites très vite, en concordance avec ces deux émissions, un rappel de l'élaboration de l'Empire LVMH, subvention, faillite, rachat, licenciement, délocalisation, pour enfoncer le clou et faire symétrie à la désindustrialisation en général. Merci encore. Merci encore. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va évoquer la saga, l'épopée de l'entreprise LVMH, à la tête duquel se trouve l'homme le plus riche de France, bien sûr, la quatrième fortune mondiale, magnifique réussite, auquel la télévision a rendu un hommage formidable à travers l'émission Empreinte, animée, présentée, filmée par Guillaume Durand, qui a déjà pu illustrer les numéros précédents de ce triptyque. Et puis, en opposition à ça, on va aller voir, vous savez, ces petites gens, faire une omelette sans casser les pauvres. Voilà. Alors, on va aller voir ces pauvres qui sont pas tout à fait d'accord. Vous savez, c'est un petit peu comme l'ombre au tableau, les casseroles, les sparadraps dont on n'arrive pas tout à fait à se détacher. Si vous voyez ce que je veux dire, non, et ben alors restez avec nous jusqu'à 16 heures auparavant. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Votez Front National, le parti qui ne dénonce ni les banquiers, ni les richesses accumulées. Votez socialiste, le parti qui a défendu en 2005 le traité européen, sacralisant la liberté de circulation des capitaux, des délocalisations, du dumping social et fiscal, pour ne pas entraver le pouvoir des actionnaires et du capital. Marie-Hélène Bourlard, politisée, votera pour ses intérêts de classe, pour mettre fin au règne sans partage des Saint-Bernard. Régis de Nîmes.
Entre les joutes porcinées et no good et Régis Frottement, j'entends un truc sur le répondeur de la part d'un des auditeurs, un truc merveilleux, l'heure avance sans bruit, dans le soir éclatant, l'amour n'ose approcher et le bonheur attend. Qui c'est, François D. C'est magnifique ce truc-là. C'est Olivier de San Francisco. À bientôt, au revoir.
Bonjour à toute l'équipe, c'est une contribution au débat sur l'école, la lutte des classes et les classes en lutte. La revue Notre École propose aux auditeurs modestes et géniaux un débat rencontre sur l'école et la pédagogie sociale. Ça se passe le mardi 20 mars à 20h30 aux Ulysses, c'est dans le 91, à la Maison pour tous des Amont. Les deux invités sont tout d'abord Laurent Hotte, auteur de Pédagogie sociale, une pédagogie pour tous les éducateurs. Il a déclenché de nombreux débats et prises de position quand il a publiquement démissionné de l'éducation nationale en septembre 2011. L'autre invité, c'est Grégory Chamba, auteur de Pédagogie et Révolution. Il fait une relecture critique de la pédagogie. Pour tous les renseignements complémentaires et puis surtout le plan, vous tapez sur Google les Ulysses Pédagogie Sociale et vous tomberez directement sur l'agenda militant d'Hémosphère avec toutes les précisions utiles. Ciao, à mardi. Bonne continuation à toute l'équipe. Ciao.
Salut Mermet, salut les AMG. Ce mercredi soir, en Haute-Savoie, projection du film Les Nouveaux Chiens de Garde, en présence du réalisateur Gilles Balbastre. Ça se passe au Parnal de Tanglières à 18h et à la Turbine de Cangevrier à 20h30. Et à noter notre repère conférence ouverte et foutraque demain, jeudi à 19h au Dercim de Mété. Le sujet d'une actualité brûlante est 5 ans de sarkozysme, bilan et perspective. Venez nous raconter votre vécu, venez rire et pleurer avec nous autour d'une mousse ou d'un kebab. Je répète, 18h au Parnal, 20h30 à la Turbine, les nouveaux chiens de garde. Demain 19h, 5 ans de sarkozysme au Dercim. Qu'on se le dise et répète.
J'ai horreur de ce raccourci facile qui consiste à employer le mot « cul » comme siège de l'acte sexuel. Moi, je dirais plutôt « con ». Oui, c'est dans le con que j'aime être baisée. J'aime pas être sodomisée. C'est pas avec mon cul que je baise, c'est avec mon con. Comme quoi, les types qui se croient extrêmement délurés et tout ça, ils ont peut-être pas les termes tout à fait adéquats. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur des vrais termes? Ah là 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 là. Cette soi-disant provocation n'est que vulgarité.
Retrouver Bernard Arnault ce soir-là et son épouse Hélène, le 14 mai 2010 à Shanghai, c'est placer une caméra dans le sillage d'une silhouette élégante, célèbre dans le monde mais peu connue en France. Bernard Arnault se considère d'abord et avant tout comme un entrepreneur français.
Arnault n'était pas un industriel, c'était quelqu'un qui voulait se faire du fric sur notre dos.
Quatrième fortune de la planète, là, à Shanghai, pour l'inauguration d'une boutique Dior dans l'immeuble du Plaza 66.
Il a vendu tout le reste pour avoir Dior. Puis après, il s'est débarrassé des gens de la gang. Nous n'étions que la gang, nous n'étions que la merde.
Les deux aspects qui me passionnent, moi, dans mon métier, c'est la création et l'organisation.
Bernard Arnault a promis plus de beurre que de pain. Au jour d'aujourd'hui, que sont devenus ces 12 500 emplois? Il n'y a plus rien, rien, rien du tout.
Je pense que pour réussir dans un métier comme le mien, et plus généralement d'ailleurs dans la vie, il faut avoir une sensibilité.
À chaque licenciement, il y a des gens qui laissent leur peau. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui appuient sur la boisson de plus en plus.
Et être capable d'avoir de l'émotion. Je crois que c'est aussi important, peut-être même plus, que de savoir calculer.
Là derrière, tu as le château que tu aperçois là-bas derrière, où il y a « Amour peut beaucoup, argent peut tout ». Il y a un vitrail dans la salle de jeu du château, avec « Amour peut beaucoup, argent peut tout ».
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, Saint Bernard Arnault, notre sauveur si modeste.
Nous voilà à Flixecourt, dans le Val de Nièvre, à une vingtaine de kilomètres d'Amiens. Flixecourt, c'est le cœur de l'Empire Boussac-Saint-Frère. Avec juste à côté de nous, là, une grande usine en briques rouges avec marqué Saint-Frère dessus. Flixecourt est entouré des châteaux de Saint-Frère avec l'hôpital Saint-Frère, la maternité Saint-Frère, les écoles Saint-Frère et tout ça. C'est quasiment ici le lieu d'origine de la fortune de Bernard Arnault. Et c'est Catherine Thierry, une sœur rouge, une bonne sœur syndicaliste, qui m'a expliqué ça il y a quelques années. Donc on va aller retrouver Catherine Thierry chez elle, aux 3 rues d'Austerlitz. Salut, ça va Catherine?
On en a vu passer du monde dans là-bas, si j'y suis, au cours des années. Mais alors, une bonne sœur rouge, c'est la première, c'est Catherine. Des prêtres ouvriers, on en a rencontrés, on en a... Mais alors, une sœur rouge, c'est la première, et c'est Catherine. Et pourquoi donc? Eh bien là, à Flixecourt, on va essayer de comprendre le miracle. de Bernard Arnault, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est ce type vous fait envie. Ben oui, bien sûr, on sent de l'amertume, de la rancœur, de la jalousie dans beaucoup de vos propos. Oui, enfin, vous avez une haine des riches. Vous devenez richophobe, hein, cher AMG. Vous devenez richophobe. On ne vous dit pas tous les messages que nous avons reçus tout à fait désagréables envers celui qui représente quand même, d'abord, le luxe français. Le luxe est français, vous savez que c'est synonyme. Et puis qui représente quand même des milliards de chiffres d'affaires, qui représente des milliers d'emplois en France et à travers le monde, qui représente énormément de choses pour notre pays. Alors, évidemment, la plupart d'entre vous, bande de rampants, seraient bien incapables de faire la même chose, bien évidemment. Mais certains, parmi les jeunes, ont peut-être un avenir et se disent « si moi aussi, je faisais la même chose, comment devient-on un tel chef ? Comment se passe l'enfance d'un tel chef ? Comment devient-on, en somme, Bernard Arnault ?» Alors l'une des réponses qui a été apportée, magistralement, c'est à travers ce film, Empreinte, que j'évoquais à l'instant, que nous avons déjà évoqué, réalisé par Guillaume Durand, mais ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout. Comment ça s'est passé ? Alors, bien sûr, il y a des mécontents, il y a des grincheux, il y a des critiques, il faut savoir aussi regarder en face. Mais que voulez-vous, encore une fois, on ne fait pas un meuble sans faire des copeaux, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et il y a toujours, effectivement, à chaque personnalité, surtout les grandes personnalités hors série et de l'histoire, quelques ombres au tableau. Eh bien, c'est vers ces ombres-là, bien sûr, que nous nous dirigeons aujourd'hui jusqu'à 16h dans la Passion Jésus.
Les riches, je parle de ceux-là qui gagnent autant de fric. Les riches, tant que 10 trésors ou 200 fois le SMIC. Les riches, PIB des Comores en bonus ou trafic. Les riches, faut pas croire, il n'y en a pas qu'en Amérique. Les riches sont contre les impôts et contre l'ISF. Les riches, prenez Henri Prolio, PDG d'EDF. Les riches, 150 000 euros par mois, c'est pas mal. Les riches, c'est pas fait pour les chiens, le bouclier fiscal. Les riches, comme François Pinault, défendent la planète. Les riches, 17 millions d'euros rien qu'en 2007. Les riches, produire Yann Arthus, c'est du travail d'artiste. Les riches, patrons et actionnaires et tous écologistes. Les riches, vendre leurs actions, connaissent les astuces. Les riches, prenez Noël Forgeat, l'ex-PDG d'Airbus. Les riches, euros par million sous le nez des juristes. Les riches nous protègent contre les communistes. Les riches nous protègent. Les riches ont la main sur le cœur et le fisc à la niche. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Les riches, depuis qu'ils sont tête de liste. Les riches nous protège contre les communistes. Les riches gèrent le FMI et le cours du méthane. Les riches, regardez par exemple Dominique Strauss-Kahn. Les riches imposent au petit peuple une rigueur réaliste. Les riches, oui messieurs dames, nous protègent contre les communistes. Les riches nous protègent. Les riches nous protègent.
Alors, Catherine, je viens vous voir, Joël et puis Marie-Thérèse, parce que j'ai pensé à vous dernièrement. Il y a eu un article dans Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que vous ne lisez pas Le Monde, et c'est un article qui est intitulé « Saint Bernard Arnault », parce qu'il a sauvé l'usine Le Jabi.
Une sur les quatre.
Ah ouais.
Alors, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, Saint-Bernard-Arnaud, ça, je vais aller... En plus, les saints, vous y connaissez, vu que vous êtes une religieuse. Bernard-Arnaud, vous connaissez. Donc, Saint-Bernard-Arnaud, je me suis dit, c'est vers Catherine Thierry qu'il faut se tourner. Alors, est-ce que vous le sanctifiez, vous aussi?
Pas du tout, pas du tout. C'est un prédateur. Les seules fois où nous on l'a rencontré, c'est un homme qui nous méprise énormément. On était pour lui, on était rien, on était moins que rien. S'il a repris le groupe Boussac Saint-Frère, c'était pour avoir Christian Dior et Conforama. Mais nous, il en avait rien à cirer.
Quand est-ce que vous l'avez rencontré?
Au moment de la reprise en 84, je crois, c'était. C'était à Paris. C'était au moment où le gouvernement voulait tourner la page de Boussac Saint-Frère après 4 années de 3 ans et demi de pourparlers. Ils ont fait une proposition. Il y avait ou le groupe Ferinel, qui n'était pas un groupe textile, ou le groupe Biedermann qui devait nous prendre. Bernard Arnault licencié. En principe, 1100 personnes en moins. Il mettait soi-disant plus d'argent dans le groupe.
Ferinel plutôt que Biedermann, les pouvoirs publics ont tranché ce matin. 3 ans et demi après le dépôt de bilan de Boussac Saint-Frère, on connaît enfin le nom du repreneur.
Antenne 2, 17 décembre 1984.
La solution présentée par le groupe immobilier présentait 3 avantages sur celle de son concurrent. D'abord, sur le plan social. La potion Ferinel est moins amère que celle de Biedermann. 12 200 emplois sur 15 000 conservés dans le textile. Des réductions d'effectifs peut-être, mais sans aucun licenciement. Enfin, sur le plan juridique, les contacts déjà établis entre le PDG de Ferinel et les frères Villot, encore actionnaires du groupe, doivent lui permettre d'arriver à une solution plus rapidement. Mais pour le PDG de Ferinel, pas question de confier un quelconque poste de responsabilité aux anciens dirigeants du groupe.
Je confirme que les frères Villot ne seront pas dirigeants ni du groupe ni d'aucune des sociétés comprises dans ce groupe.
Bernard Arnault.
Ils travailleront avec vous malgré tout?
Les frères Villot conserveront certaines fonctions dans le groupe, mais pas des fonctions de direction.
Boussac Saint-Frère, c'est encore aujourd'hui un empire. Dans le textile, avec un fleuron comme Christian Dior, mais aussi dans la distribution avec Conforama, Le Bon Marché ou La Belle Jardinière.
Et confiance. Alors voilà, vous avez compris, ça se passait très bien, on avait fait les choix, on avait pris les bonnes décisions et on allait vers des lendemains heureux et enchantés. On est avec cette bonne sœur rouge syndicaliste et qui est douée de mémoire. Dans toutes ces histoires, le temps médiatique qui est le nôtre, c'est le temps de l'événement, mais c'est aussi le temps de l'oubli. C'est le temps de l'ardoise magique. Vous savez, on efface du jour au lendemain. C'est la mémoire du poisson rouge qui oublie tout à chaque tour d'aquarium. Là, non. Il y a des gens qui, à certains endroits, n'ont pas oublié du tout ce qui s'est passé.
Et Bernard Arnault, c'est un sauveur avec Ferinel en 1984.
Non, c'est pas un sauveur. Non, c'est pas un sauveur.
Et il s'engage à garder 12 200 salariés voilà. Sur les 15 000. Donc, ça veut dire qu'il a sauvé, quand même, à ce moment-là, Bernard Arnault a sauvé 12 200 emplois.
Bernard Arnault n'a rien sauvé du tout. Rien sauvé du tout. Il faut quand même, c'est honteux de dire qu'il a sauvé quelque chose. Je peux pas être d'accord avec vous. Et puis vous mettez en colère quand vous me dites ça. Parce que Bernard Arnault, ce qu'il voulait, il voulait Christian Dior et Conforama. C'est tout, il n'y avait que ça qui l'intéressait. D'ailleurs, très vite après, il a revendu ce qui est dans la vallée de la Nièvre et ce qui est dans la Somme à VEV Prouveau. Mais Arnault n'était pas un industriel, c'était quelqu'un qui voulait se faire du fric sur notre dos.
Oui, non, c'est que 1981, Bernard Arnault est parti de France, il est parti aux États-Unis.
Les soviets arrivent à Paris quand même.
Tout à fait, c'est un peu ça le truc. Donc, et par après, voyant que ça ne se passait pas, il est revenu en France. Et puis, bon, la gauche lui a donné une opportunité en reprenant Boussac Saint-Frère. Parce que Bernard Arnault est arrivé, son objectif, c'était bien Dior et Conforama.
Ce matin, à Vambrechy, des délégations syndicales venues des quatre coins de France étaient là, au rendez-vous, pour le comité central d'entreprise de la compagnie Boussac Saint-Frère.
FR3, 22 mars 1985.
Il y a une inquiétude très grande. On nous parle de reclassement et en fait,
On sait très bien qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du groupe.
Vous ne pensez pas que si vous aviez accepté de discuter ce matin au CE, vous auriez pu obtenir certaines choses?
Non. Discuter avec Arnaud et Charlier, c'est accepter les licenciements, c'est accepter les fermetures, c'est accepter les cessions, c'est accepter le démantèlement. Les organisations syndicales refusent, Force ouvrière a refusé, comme les autres, et refusera toujours de discuter des cessions, des licenciements. On n'est pas là pour charcuter un groupe comme CBSF, on est là au contraire pour essayer de le redresser et de le faire tourner.
Les salariés de la Watteau sont menacés de licenciement d'après les syndicats, l'usine devrait même fermer. Ils sont venus du midi pour discuter avec Bernard Arnault qui les a reçus dans la matinée.
Ce plan qui prévoit un programme limité de cessions de départements non stratégiques,
Bernard Arnault,
ne peut en aucun cas être assimilé à un démantèlement de la société car les cessions représentent moins de 20% de l'activité.
Bernard Arnault a également annoncé le projet d'une nouvelle filature implantée dans la vallée de la Moselle. Quant aux éventuelles suppressions d'emplois, aucune précision n'a été apportée aujourd'hui par la direction sur leur nombre.
Je pose une nouvelle question, Catherine, mais je ne voudrais pas qu'il y ait une crise cardiaque aujourd'hui quand même.
Non, non, pas de crise cardiaque.
Vous voulez quand même pas dire que sur les 12 200 emplois, là, Bernard Arnault n'a pas tenu ses promesses.
Non, il n'a pas tenu ses promesses. Moi, j'ai un tract qui, de l'époque, hein, étape vendue 40 licenciements. La, oui, l'internationale lainière à Beauvais, fermée, cyclone siège de Paris, les salariés sont mis en chômage, ignés, les gens sont en formation, ne savaient pas pourquoi faire. La bâcherie de fixe court, suppression de 120 emplois. La corderie de Saint-Rouen, les lourds réapparaissent, Dombir, principal concurrent qui licencie actuellement dans les Vosges. Combien de suppressions d'emplois? Aujourd'hui, l'usine, elle est fermée. Hein? On a fait des appartements, on a fait la maison médicale dans les bureaux, et il n'y a plus personne qui travaille à Saint-Rouen. Bon, alors, qu'on sera? En ce moment, on est en train de se finir, voilà.
Je vais regarder votre tract. Ah là, c'est un tract de février 85. Alors là, c'est marqué fin décembre 84, Arnault, PDG de Ferinel, présente un plan au gouvernement et à des élus du comité central d'entreprise pour la reprise de la compagnie Boussac-Saint-Frère. Pas de démantèlement des groupes, des cessions, oui, mais pas de licenciement. Il avait dit en décembre, il n'y aura pas de licenciement. Le tract est de février 85. Et donc là, à ce moment-là, il y a déjà tous les licenciements que vous venez d'énoncer.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, oui, oui.
Donc ça veut dire qu'il est revenu sur ses promesses moins de 3 mois après les avoir énoncées.
Il n'a pas tenu, c'est tout, il voulait Christian Dior, il n'y a que ça qu'il voulait. Moi je me rappelle, à ce moment-là, il venait dans l'usine, il disait celui-là on le veut, celui-là on le veut pas, celui-là il est tordu, il est trop vieux, celui-là elle est trop grosse, celui-là, et voilà, il triait leur bétail.
Mais ça c'était pas Bernard Arnault.
C'était les sous-fifres qui étaient là.
Alors là, toujours dans le même tract de février 85, soit 3 mois seulement après la reprise par Bernard Arnault, vous notez, voilà le plan Ferinel, l'emploi catastrophique, il s'en fout, l'avenir des travailleurs, ça n'est pas son problème, il faut gagner de l'argent, il faut être rentable.
Bernard Arnault nous a promis plus de beurre que de pain. Au jour d'aujourd'hui, que sont devenus ces 12 500 emplois qu'il allait sauver? Il n'y a plus rien, rien, rien du tout. Et lui, pendant de 83 à 2012, il faut voir son parcours. Et d'ailleurs, je veux dire, son ascension, elle est démarrée de Dior. C'est tout, c'est tout.
Dans le Nord, beaucoup plus qu'à Paris, on sait qui est Bernard Arnault. Il incarne finalement assez bien les valeurs de la région, comme la continuité dans l'effort. À 25 ans, Bernard Arnault prend donc les commandes avec l'aval de son père de Ferré-Savinel, qui va devenir Ferinel.
Mais chérie, qu'est-ce que tu fais?
Je fais le tour du propriétaire.
Et là, vous allez assister à une scène surréaliste. Le tycoon débarque chez Ferinel. Bonjour, c'est Bernard. Vous vous souvenez? Le grand mince timide de 25 ans qui vous dirigeait.
Ça a complètement changé. Bonjour. Ça a complètement changé. Mais mon bureau était par là. C'était mon bureau. Oui, oui, oui. C'était là. Vous étiez à ma place, là.
J'ai cette chance, alors.
C'était mon bureau. C'est drôle, hein.
Le lien entre la fortune de Bernard Arnault et Flic Secours, la vallée de la Nièvre, l'Empire Boussac-Saint-Frère, je l'ai appris grâce au petit classeur que vous avez sous le coude, là. Ça, c'est l'histoire de Bernard Arnault, de Flic Secours, de l'Empire Boussac, tel que vous l'apercevez. Et ça tient dans un classeur, et vous n'avez pas des grands médias pour l'exprimer. Et la vision de l'histoire, telle que Bernard Arnault l'a, lui, il a France 5, il a des maisons d'édition, il a des journaux pour la répandre.
Alors, voyez, même, j'aime bien la musique. Autrefois, j'écoutais souvent Radio Classique quand j'étais en voiture. Maintenant, je ne peux plus écouter Radio Classique. Vous savez pourquoi ? Parce que ça appartient à M. Arnault. Donc, je ne peux plus supporter ça. Pourtant, j'aime bien la musique et j'aime bien la musique dite classique. Eh bien, je ne peux plus écouter ça.
Vous n'êtes pas très charitable pour une bonne sœur, quand même.
Non. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais finalement, vous savez, si vous connaissez un peu l'Évangile, Jésus s'est mis en colère après les vendeurs du temple. Il les a chassés. À coup de fouet, on raconte ça dans ses copains racontent ça dans les premiers écrits qu'ils ont fait sur Jésus.
Alors, est-ce que vous avez regardé l'émission Empreinte de Guillaume Durand consacrée à Bernard Arnault?
Oui, non. Oui, moi j'ai vu l'émission sur je me suis pas couché le soir pour le regarder.
Vous avez fait une nuit blanche alors?
Non, j'ai pris ce qu'il fallait pour dormir.
Alors, je vous fais écouter un petit passage sur Bernard Arnault expliquant la reprise de Boussac-Saint-Frère.
Grande question, fallait-il préserver à tout prix l'emploi? Là, deux versions divergent. Oui, disent ceux qui traitèrent le dossier à l'Élysée et à Matignon. Non, dit-on encore aujourd'hui dans l'entourage de Bernard Arnault. Ce point d'histoire n'empêchera pas les syndicats de l'époque de marquer à la fois inquiétude et déception.
Nous allons demander des garanties par rapport au maintien du groupe, parce que les opérations engagées actuellement sont des opérations de démantèlement.
C'est comme un malade, tant qu'il est en vie, on a de l'espoir. Hein. Nous, on est malade, on est presque dans le coma.
Lorsque nous étions à Shanghai, Bernard Arnault s'est souvenu de cette époque, mais il a l'honnêteté de reconnaître que ce fut une victoire avec beaucoup d'interrogations.
Dans ce groupe, il y avait un certain nombre de marques, dont Dior a très fort potentiel. Et pour galvaniser les troupes, pour essayer de les emmener vers quelque chose d'extrêmement motivant, il leur a dit « on va essayer d'être le premier et de faire en sorte de devenir le premier groupe de luxe au monde ». Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que je ne savais absolument pas comment on allait faire.
Là, il dit finalement « vous êtes les troupes » et il a voulu vous galvaniser.
Non, il a voulu galvaniser ses financiers. Il n'a pas voulu galvaniser les ouvriers. Mais nous, il nous a ignorés, il nous a revendus immédiatement après, comme du bétail qu'on abat. Parce que Bernard Arnault, il voulait Christian Dior. C'était le joyau du groupe. Et c'est ça qu'il voulait. Et il a vendu tout le reste pour ça, pour avoir ce joyau de Dior. Il le voulait, il a repris, puis après il s'est débarrassé des gens de la gang. Nous n'étions que la gang, nous n'étions que la merde.
Alors c'est marrant, vous disiez merde, parce que j'ai lu qu'en gros Dior était une pépite dans un tas de merde. Et donc qu'il fallait se débarrasser du tas de merde pour ne garder que la pépite.
Gold is cold. Diamonds are dead. The limousine is a car. Don't pretend. Feel what's real. C'est ça que j'adore. J'adore Dior.
Abstraite-moi, je préfère le goût du sang. Je n'offre pas de cigarettes aux idiots que je descends. Je porte des boutons de manchette, mais je ne prends jamais, jamais de gants. Mon fonds d'investissement rachète des entreprises et les revend. Cracher du rendement. Je suis un os de la mallette. Mon boulot c'est simple, c'est de virer les gens. Je nettoie, je renvoie, je vire, je licencie les gens. C'est utile, c'est sympa. Je m'occupe des encombrants. morale de mon historiette et la morale de l'argent. La morale de mon historiette n'existe pas tout simplement.
Bonjour Monsieur Bélanger, François Ruffin.
Enchanté, entrez, entrez. On va bavarder un instant, Pierre.
Alors, Monsieur Gérard Bélanger, vous êtes un haut fonctionnaire à la retraite, vous êtes un ancien préfet, et vous avez été administrateur, on peut dire, de la compagnie Boussac-Saint-Frère entre 1983 et 1985.
J'ai été membre de l'équipe de direction, et puis, depuis 1981, et puis directeur général entre 1983 et la reprise par Arnaud. Voilà.
Pendant ce temps où le groupe Boussac-Saint-Frère est un peu sous tutelle de l'État, on dit aux repreneurs, si vous voulez Dior et Conforama, en gros, vous devez aussi reprendre toute la partie textile.
La partie textile et les parties diversification, dans lesquelles il y avait aussi des dérivés du textile, comme peau douce, mais voilà ce qui, effectivement, était la condition. Nous avons eu un certain nombre de gens qui se sont présentés, qui étaient intéressés. En fait, ils étaient tous intéressés par la partie noble. Et c'est ainsi qu'on a vu défiler la Lénière, Tapi et le groupe Arnaud.
L'une des promesses faites à ce moment-là, peut-être davantage aux syndicalistes qu'au pouvoir public, c'est le maintien de l'emploi, en tout cas de dire que bah voilà, sur les 15 000 emplois qui restent chez Boussac-Saint-Frère, il y aura 12 200 emplois qui seront maintenus.
En fait, il ne s'est pas engagé sur la voie de ces maintiens industriels. Il a même été un peu vite en faisant quelques cessions d'activité intempestives que je lui avais pourtant déconseillées. D'ailleurs, je crois que c'est en 86 que tout a été cédé à la Lénière. Le fond du problème, c'était à l'époque déjà celui de la concurrence internationale aux activités de main-d'œuvre, aux activités textiles. Donc il y avait toute une partie qui était dans de très grandes difficultés structurelles compte tenu des prix de revient européens qui n'étaient plus compatibles avec ce qu'attendait le marché comme bas prix de consommation de masse.
Finalement, ce que vous dites, c'est grosso modo, Bernard Arnault n'a certes pas tenu ses promesses, mais il n'y a personne, à part les syndicalistes, qui s'attendait à ce que le repreneur les tienne.
Vous avez presque raison. Aucune des démarches, aucun des montages de Bernard Arnault n'a jamais été marqué par une illégalité. Il a été marqué par beaucoup d'habileté, mais jamais par une illégalité. Mais vous savez combien les engagements industriels étaient à l'époque, que ce soit dans le textile, dans le jouet, dans la navale, dans la sidérurgie, difficiles à tenir. Et il est vrai que le problème fondamental était celui de la compétition par les prix dont le monde libéralisé par la dérégulation commerciale.
Voilà, le mot est dit, la dérégulation commerciale, la libre circulation, autrement dit, une application du dogme néolibéral dont LVMH est une des formes les plus accomplies, avec toutes les conséquences qu'on vient d'entendre dans la bouche de ces syndicalistes qui ont été les victimes de ces délocalisations et de cette mondialisation et cette ouverture des marchés et notamment la mise en concurrence de la main d'œuvre à l'échelle mondiale, ce qui évidemment immédiatement entraînait le chômage de masse parmi les travailleurs non qualifiés. Alors vous avez compris, Gérard Bélanger, ancien haut fonctionnaire, ancien préfet, qui fut directeur général de Boussac entre 83 et 85, est capable de répondre à la question que François Ruffin adore et qui est effectivement très importante aujourd'hui. Que faire ?
On est là 30 ans plus tard, rien n'a changé, tout continue. Au fond, la division internationale du travail qui avait cours sur le textile, le jouet dans les années 80, elle a aujourd'hui cours, par exemple, sur les métallurgies. Quand on parle de Boussac dans les années 80, on entend le Jabi aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une continuité de l'histoire et que sur ce terrain-là, le terrain de la libre circulation des marchandises, rien n'avait changé en 30 ans.
François Ruffin, il y a eu une aggravation de l'histoire. Car il y a 30 ans, nous en étions à la première mondialisation, celle dans laquelle les coûts comparatifs condamnaient assez largement les activités de main-d'œuvre, mais permettaient, ce qui a été vrai jusque dans les années 95-98, mais permettaient de compenser les pertes des activités de main-d'œuvre par des activités de haute gamme, de haute technologie, de haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement menacés, d'ailleurs, tout est quasiment perdu dans le domaine des activités de main-d'œuvre. Nous ne sommes pas seulement menacés dans ce domaine-là, nous sommes menacés pour tout ce que l'on peut appeler les emplois nomades, qui représentent de l'ordre de 20% des activités françaises. Et si nous ne nous engageons pas vers une politique plus prudente de protection de nos intérêts économiques stratégiques européens, nous sommes destinés à être à la remorque du capitalisme asiatique.
La question, c'est, depuis 30 ans qu'on assiste à cette histoire, que faire ?
S'il n'y a pas une prise de conscience d'un besoin raisonnable de protection européenne, je ne donne pas cher de l'avenir des activités de notre continent. C'est nourri de mes expériences que j'ai vécues dans des domaines divers et variés, celui du textile, celui de la sidérurgie, celui de l'édition, celui de l'outre-mer où nous avons vécu d'autres formes de délocalisation des activités ultramarines. Je pense que le principe d'ouverture devrait être remplacé par un principe de précaution quant aux conditions de l'ouverture commerciale. Et une deuxième question qui est parallèle, qui ne doit pas masquer la première, c'est celui d'une convenable régulation financière. Si on ne tient pas les deux rênes, la reine d'une régulation commerciale et la reine d'une régulation financière, je crois que nous allons à des lendemains extrêmement difficiles pour ce pays.
Quand on entend protection, on pense barrières douanières, taxes aux frontières, ça fait partie des outils à utiliser ?
Alors, il y a une idée extrêmement astucieuse qui remonte à Loré, qui était l'inventeur de la TVA, qui est l'idée des droits ristournables. Nous importons de l'électronique qui est faite par des gens très mal payés. On va mettre un droit sur cette électronique. Mais la contre-valeur de ce droit va aller à un fonds pour le développement des pays socialement en retard, pour la protection environnementale. C'est une idée qui est parfaitement négociable avec un certain nombre de grands partenaires émergents.
C'est un genre de protectionnisme internationaliste, quoi.
C'est ce que on appelait le protectionnisme altruiste à un certain moment.
On a beaucoup dit au départ, M. Arnaud, il fait ses opérations pour gagner de l'argent.
Moi, j'avais été voir les ouvrières polonaises, et les ouvrières polonaises gagnaient 250 euros. Donc, ils disaient déjà que c'était trop cher pour eux, net, 250 euros net.
Ils ne s'intéressent qu'à faire un coup financier. Non, bon.
C'est tout délocalisé en Tunisie, et même leur création s'est faite par une entreprise en Tunisie. Il y a même plus, ils ne créent plus ici en France. Il faut voir les conditions de travail pour les filles. Hein.
Force est quand même de constater que grâce à tout ça, j'ai pu permettre la construction du premier groupe de luxe mondial.
Ça continue à délocaliser et ça continue à licencier.
Ils n'arrêtent pas de se développer, d'embaucher du personnel, d'ouvrir des magasins partout dans le monde.
Et donc, ils avaient recherché un nouveau site pour sous-traiter en Bulgarie. Et eux, les ouvrières bulgares, c'était 150 euros par mois.
Donc l'histoire de la jonglerie financière, ça me paraît presque dérisoire.
On va user tous les territoires. Pour faire des territoires, des déserts. C'est peut-être trop beau.
Donc là, on va juste sur le pas de votre porte, Catherine Thierry.
Oui, et tu vois Saint-Frère. Je ne peux pas oublier Saint-Frère, il veille sur moi. D'un côté, tu as Saint-Frère ici, les usines, et là, regarde, derrière, tu as le château que tu aperçois là-bas derrière, où il y a amour peut beaucoup, argent peut tout. Il y a un vitrail avec « Amour peut beaucoup, argent peut tout ». Un vitrail dans la salle de jeu du château. Voilà. Hein? Et ben, on vit entre ces deux choses-là.
Entre le capital du château de l'autre et le travail de l'usine.
Qui a engraissé le château pendant des années.
Voilà, retour donc à flic ses cours, chez Saint-Frère, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. Tout ça, ça partait, vous vous souvenez, hein, de cet hommage rendu à Bernard Arnault, Saint-Bernard, pour avoir sauvé 93 emplois chez Le Jaby, enfin la suite de la fermeture de Le Jaby. Alors, on a fait grand cas de cette extraordinaire générosité, ce qui a déclenché notre envie de revenir un petit peu sur l'histoire de ce tycoon, cet immense industriel français, notre honneur national. Hein, c'est le, il y a Voltaire, Chardin, tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est Bernard Arnault, aujourd'hui l'ami du président de la République. Donc encore quelques instants avec Catherine Thierry, la sœur rouge, ancienne déléguée CFDT, et puis un monsieur qu'on a entendu, c'est Joël, qui lui aussi est un ancien délégué CFDT, qui a été un des protagonistes, ils ont été les protagonistes, des acteurs de cette histoire à l'époque.
Alors, quand on épluche votre classeur, là, où j'ai appris l'histoire de la vallée de la Nièvre, on voit que après les plans de licenciement, il y a le secours populaire qui s'installe à Flic-Secours et qui prend de l'ampleur à Flic-Secours, et qui a, on lit dans le courrier Picard de l'époque, la queue au Resto du Cœur à Flic-Secours à partir du milieu des années 80.
À chaque licenciement, il y a des gens qui laissent leur peau. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui appuient sur la boisson de plus en plus, hein. J'ai connu des gens qui ont voulu couper l'électricité, à qui on voulait couper l'eau, à qui on voulait, alors c'est les plus pauvres, ceux qui se cachent le plus, mais les gens sont courageux. Ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Moi, une fois, j'ai accompagné une fille, elle était dans un logement qui était chauffé au gaz. Elle avait plus d'argent pour remettre du gaz dans la bonbonne, hein. Elle se chauffait plus et elle pouvait même plus se faire chauffer un repas. Elle me disait les haricots verts des Restos du Cœur chauffés au micro-ondes, je n'en peux plus. Je l'ai emmenée au Secours catholique. On lui a donné de quoi remplacer une bouteille de gaz. L'employé municipal, il est venu lui changer ses trucs pour qu'elle puisse passer d'une grosse bonbonne à l'extérieur à un poêle de butane. Hein. Et puis, bon, Dieu merci, elle a retrouvé du boulot. Elle a eu un secours un peu substantiel aujourd'hui, elle en est sortie. Mais à ce moment-là, elle était au bord de la catastrophe. Hein. Moi, je me rappelle Jean-Bernard Messiaux. Hein, bon, c'était un gars qui avait eu des déboires dans sa vie. Il n'était pas si vieux que ça. 6 mois après, il était mort. Hein. Il y avait l'alcool, il y avait etc. Et 6 mois après son licenciement, il était mort. Il y en a qui se sortent de la pauvreté, hein. Mais c'est certain que quand même, il y en a qui payent un lourd tribut à ça.
Ça fait peut-être plus d'une heure qu'on discute, hein. Vous êtes parti de Bernard Arnault.
Oui.
Donc, à la limite, là, aujourd'hui, on vous donne les conséquences. On est parti justement de la reprise d'Arnault et vous avez aujourd'hui les conséquences. Alors, moi, c'est vrai qu'il faut faire les parallèles. Bon, voilà ce qu'il est devenu, qui lui a donné un essor. C'est bien la reprise de Boussac, sa frère, hein. c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il est devenu la plus grosse fortune de France, hein. Et puis là, vous venez d'entendre tous les témoignages de dire qu'est-ce que c'est devenu de la vallée de la Nièvre. Il y a plus de travail. Voilà. Lui, alors moi, je veux bien qu'on lui montre, qu'on voit sur la tombe de sa mère ou de ses parents, j'en sais rien, ou de ses grands-parents.
Voilà, la tombe est là.
Bah oui, on fait pleurer dans les chaumières.
À peine arrivé dans le Nord, la région de son enfance, pour nous retrouver, il choisit de marcher dans les allées du cimetière de Roubaix. Il ne montre rien. Émotion devant la tombe de ses grands-parents adorés, les Savinelles.
Mais il y aurait de quoi pleurer dans les chaumières le 15 du mois. Hein.
Donc là, c'est la tombe de mes grands-parents. Et vous voyez, ça, c'est la plaque qui a été mise en 59 par le personnel de l'entreprise de mon grand-père.
Maintenant qu'il a 20 milliards d'euros, est-ce qu'on pourrait pas lui demander, allez, ne serait-ce que 1 ou 2 milliards, 10% de sa fortune, pour le Val de Nièvre, pour le Flic-Secours et les alentours, pour recréer de l'emploi, pour financer le CAT, et ainsi de suite?
Il faut encore savoir s'il veuille ou il voudra pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ils voudront pas.
Il faut peut-être lui demander gentiment.
Ah, faut quand même pas se mettre à deux genoux, quand même. Vous voyez, il s'est pas mis à deux genoux pour nous piller, hein. Vous savez, À la limite, moi, bon, je suis apté assez direct. Hein. Je n'irai pas lui demander. Je lui prendrai. C'est une autre nuance.
Bernard Arnault n'est pas un artiste de l'inutile. Ce secret réside dans son éducation. Étienne et Maminette, les grands-parents pauvres venus d'Auvergne, ses parents, évidemment, à Roubaix, et le regard de son père qui le poursuit. Rilke avait raison, pour certains, l'enfance est un destin.
Alors, est-ce que vous accepteriez d'inviter Guillaume Durand, donc celui qui a fait l'émission, le magazine là, sur Bernard Arnault, à venir ici, dans la vallée de la Nièvre, pour découvrir l'autre facette?
Attendez, moi je trouve qu'il y a aussi un respect des gens à avoir. Monsieur Bernard Arnault, il peut montrer sa réussite. Il peut se montrer en train de se recueillir sur la tombe de ses parents et de ses grands-parents. Il peut montrer la réussite de ses gosses, etc. Moi, le copain que je voulais inviter aujourd'hui, ici, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est quelqu'un de très respectable, qui est très intelligent en plus, hein, mais il n'a pas voulu parce qu'il m'a dit « Non, je ne veux pas... Je parle mieux la merde. Je parle mieux le passé. C'est trop pénible. Bon, c'est un gars qui a été licencié suite à la fermeture de Saint-Ouen. Et bon, il a connu la galère. Il a les stages, la fin du chômage, les stages. Il avait pas de permis. Juste un vélo. Il a été faire 2 contrats aidés sur Berneuil. Puis après, il a été en surendettement parce que il a fait soigner son chien. Il a dû aller 2 fois chez le vétérinaire. Et puis, il devait avoir son électricité coupée. Il était au bord du suicide, ce gars-là. Bon, on l'avait récupéré à l'association de chômeurs. Mais ce matin, je l'ai eu ce matin pour qu'il vienne. Et il ne veut pas, tu vois. Il dit non, c'est remis la merde. Il n'a pas envie de remuer ses mauvais souvenirs et sa pauvreté et sa misère. Et les gens, ils n'ont pas envie de montrer leur mal-vivre et leur mal-être.
Je pense que pour réussir dans un métier comme le mien, et plus généralement d'ailleurs dans la vie, il faut avoir une sensibilité et être capable d'avoir de l'émotion. Je crois que c'est aussi important, peut-être même plus, que de savoir calculer.
Merci à toutes et à tous. C'était Saint-Bernard Arnault, notre sauveur si modeste. Dernier volet de ces reportages de François Ruffin qui était à Flexicourt. Donc aujourd'hui, vous aviez compris. Merci à Catherine Thierry, la bonne sœur rouge. Merci à Joël. Merci Marie-Thérèse, Gérard Bellorget et Benoît Bouchemard. Gérard Bellorget, vous pouvez consulter son blog qui est particulièrement passionnant, où il raconte dans le détail l'histoire de ce qu'il appelle le rapt de Boussac par Bernard Arnault. C'est particulièrement édifiant. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ou bien sur le site là-bas.org, où vous pouvez également réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Demain, à 15h dans la base, si j'y suis, une série spéciale d'émissions. Ils eurent 20 ans dans les Aurès. Le 19 mars, on va célébrer le 50e anniversaire du cessez-le-feu, la guerre d'Algérie, qui ne s'appelait pas encore la guerre d'Algérie, c'était qu'en 99. Eh bien, en 98, on avait consacré avec Guy Van Kiel une suite de reportages aux appelés, à ces anciens d'Algérie. C'était parmi les premiers reportages sur ce thème. Il n'y a qu'une depuis 20 ans que les appelés ont pris peu à peu la parole et figurent maintenant dans, disons, le paysage historique français. Il y aura beaucoup d'émissions tous ces jours prochains sur Inter, sur ces sujets, autour du cessez-le-feu. Et donc, là-bas, si j'y suis, on retrouvera les paroles de ceux qui eurent 20 ans dans les Aurès. Yann Bouillot et Alexandre Chenet étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chonneton et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez, Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Fenêtre aluminium.
Alors, règle numéro 1, chez soi, se sentir bien. Eh ben, chez moi, j'ai installé des fenêtres aluminium. Une fenêtre alu, ça change tout. D'abord des montants très fins pour plus de lumière, bah oui, les gros montants qui nous cachent le soleil, ça suffit, on n'est pas des taupes. En plus, isolation thermique et phonique parfaite. Et tout ça pour un prix qui surprend, dans le bon sens, hein. Et puis l'entretien se limite à un coup d'éponge, et ça, ça m'arrange. Du coup, elle est très cool la vue, derrière mes fenêtres en alu. La fenêtre alu, c'est confortable comme point de vue. Rendez-vous sur fenêtrealu.com.
Moi, je sais pas de quoi la vie sera faite, mais je vais mettre de l'argent de côté.
La pierre ? Je crois que je vais me réfugier dans la pierre.
Des taux incroyables sur 3 mois, vous y croyez-vous ?
L'assurance vie, c'est pas mal ça l'assurance vie.
Oui, tout le monde a un avis différent sur comment bien placer son épargne. Mais qui s'y connaît vraiment ? Chez MACSF, grâce à notre expérience et notre solidité financière, nous proposons aux professionnels de la santé et à leurs proches des assurances vie parmi les plus performantes du marché. Pour en savoir plus ou contacter un conseiller, rendez-vous sur macsf.fr. MACSF, notre engagement, c'est vous. France Inter présente toutes nos envies. Le dernier film de Philippe Lioret en DVD. Claire, jeune juge à Lyon, rencontre Stéphane, juge chevronné et désenchanté. Elle l'entraîne dans son combat contre le surendettement. Un film bouleversant, gonflé d'espoir et nécessaire. Après Welcome, toutes nos envies de Philippe Lioret, avec Vincent Lindon et Marie Gillin. Un DVD et Blu-ray France Inter.
France Inter présente Alois Nebel, un film d'animation de Thomas Lunac, actuellement au cinéma. 1989, le régime tchèque vacille. Alois Nebel, chef de gare, vit seul avec les fantômes de son passé. À Prague, il croise celle qui lui donnera l'amour dont il a besoin pour sortir du brouillard de ses souvenirs. Retrouvez Alois Nebel de Thomas Lunac dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Ils eurent 20 ans dans les Aurès, demain dans la Basse, j'y suis, à 15h, on se retrouvera autour de ce thème. Je vous laisse pour les infos avec Mathieu Auger. Salut.
Le voyage douloureux des familles des victimes belges de l'accident d'autocar hier sur les routes suisses. Elles sont attendues d'une minute à l'autre à Sion, dans le Valais, là où reposent dans une chapelle ardente les corps des 28 victimes, 28 morts dont 22 enfants. L'autocar a percuté la paroi d'un pont. Une partie des enfants était scolarisée à l'école Saint-Lambertus d'Everté, dans le centre de la Belgique. Malgré le drame, l'école est restée ouverte ce matin. Les parents et les enfants ont immédiatement été pris en charge. C'est ce que raconte cette maman avec Delphine Gautschou.
Quand on est arrivant à l'école ce matin, on a été pris en charge par les parents, en tout cas par les psychologues. Ils nous ont plutôt expliqué comment ils allaient prendre en charge les enfants, donc comment ça allait se passer, qu'ils allaient prendre chaque classe à part, leur expliquer en fonction de leur âge ce qui s'est passé pour éviter qu'il y ait de l'imagination, donc pour expliquer les faits comme ils se sont passés et surtout pour annoncer déjà le décès de certains amis. Entre autres, le professeur de 6e qui est décédé, dont le fils est dans la classe de 5e primaire. Donc, ils savent très bien qu'il y a un ami qui a perdu un papa. On attend encore, évidemment, la liste définitive des enfants. Malheureusement, on ne les connaît pas, donc on est dans un peu l'angoisse de savoir qui est décédé. Tout le monde est fort émotionné aujourd'hui. Et voilà.
Et la vingtaine de personnes blessées dans l'accident a été transférée dans 4 hôpitaux de la région. Le premier ministre belge, Elio Di Rupo, a décrété une journée de deuil national, donc en Belgique. Après le débat agité sur la viande halal, la visite cet après-midi de Nicolas Sarkozy à la mosquée de Paris, devant les autorités religieuses, le président candidat a souhaité qu'en cette période électorale, personne ne se sente blessé par des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Les musulmans ont le droit de vivre leur foi comme n'importe quel autre citoyen. Nicolas Sarkozy qui a rappelé sa volonté de bâtir un islam de France et non pas un islam en France. Un impôt particulier pour les grands de l'internet. Il faut un impôt représentatif de leur activité dans notre pays. C'est l'idée lancée par Nicolas Sarkozy dans l'hebdomadaire Le Point à paraître demain. Le président candidat qui évoque également la possibilité d'une taxe sur la publicité et l'extension de la loi sur la contrefaçon aux responsables de sites internet illégaux. 20% des femmes porteuses de prothèses PIP se sont déjà fait retirer leur leurs implants. Ce sont les chiffres fournis aujourd'hui par les autorités sanitaires françaises, ce qui représente près de 5000 femmes sur les 30 000 porteuses de ces prothèses remplies de gel de silicone non conforme. Et puis la situation humanitaire en Syrie et la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, qui tire la sonnette d'alarme. Selon l'organisation, près d'1,5 million de personnes souffriraient de l'insécurité alimentaire dans le pays, conséquence directement des violences. L'accès de l'aide humanitaire, c'est l'une des exigences de l'émissaire des Nations Unies Kofi Annan en visite dans le pays le week-end dernier. Aujourd'hui, Damas assure avoir répondu favorablement aux demandes formulées par Kofi Annan. La Syrie toujours, où deux journalistes turcs sont portés disparus depuis 5 jours. Les deux hommes, aux dernières nouvelles, se trouvaient dans la ville rebelle d'Idlib, reprise par l'armée hier après plusieurs jours de violents combats.
Les femmes n'ont pas droit qu'à une seule journée. Le 8 mars, France Inter et le journal Le Monde ont lancé un appel pour la dignité et l'égalité des femmes dans le monde arabe. Pour le signer et continuer le combat, c'est très simple. Rendez-vous sur franceinter.fr.
On aura tout vu avec une réalisatrice et une actrice présente et puissante.
Noémie Wovski à l'affiche des adieux à la reine de Benoît Jacquot.
10 minutes en retard, à quoi ça sert-il de vous avoir confié la pendule de Monsieur Janvier ?
Je suis désolée, Madame Campan. En plus, vous êtes toute crottée.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Quelle lecture avez-vous prévue, Monsieur Marivaux ? Oublions.
Avec Christine Masson.
Vous conseillerez plutôt les oraisons funèbres de Monsieur Bossuet.
Et Laurent Delmas.
Oraison de Marie-Thérèse d'Autriche. Excellente idée.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de Carrefour de l'Odéon. Frédéric L'Odéon, bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, il y a de petits maîtres qui ont quelquefois créé une ambiance très propice à l'éclosion des génies. Par exemple, Peter Van Maldere, qui était un Bruxellois et qui a été applaudi très très tôt. D'ailleurs, il n'a pas vécu suffisamment longtemps pour avoir une belle barbe blanche, comme Johannes Brahms par exemple. Mais on a dit de lui dans un journal théorique très sérieux. On peut considérer les Allegro des symphonies du flamand Van Maldere comme des modèles de ce genre de musique instrumentale. Là, on parle des symphonies, bien sûr. Il possède toutes ses qualités et ses œuvres à lui fournissent une excellente preuve de la grandeur de ce compositeur dont la mort prématurée a privé l'art de plus d'un chef-d'œuvre. Eh bien voilà, c'est une découverte de nouveau. Peter Van Maldere.